Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
On pense souvent aux jeux vidéo comme à un luxe, un divertissement, un produit de consommation comme un autre. On parle de l'industrie du jeu vidéo, de profit, de violence, d'isolement social, sans jamais mentionner que pour certaines et certains, le jeu vidéo est une nécessité. Non pas une nécessité physique au sens de l'addiction, autre sujet adoré par la presse, mais une nécessité pour le bien-être. Car quand on n'a pas les moyens de s'offrir de grands voyages, quand sortir et exister dans le monde extérieur se révèle plus difficile que prévu, le jeu vidéo offre un dépaysement total et la possibilité de voyager dans d'autres mondes. Il permet de s'échapper du quotidien, mais aussi et surtout d'être autre, parfois même de simuler une vie rêvée ou de créer des vies parallèles, celles qu'on ne pourra jamais vraiment vivre. C'est ce besoin que raconte Karine, grande joueuse de la simulation de vie Les Sims, dans cet épisode des Pieds sur Terre de Ilana Navarro, diffusé pour la première fois le 24 mars 2014. Entre réel et virtuel donc, le rôle presque médicinal d'un jeu devenu havre de paix, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les Pieds sur Terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
J'avais pris un avatar qui me ressemblait à peu près, quoi, une femme brunette. Et puis j'avais été vite dans l'exploration. Et donc j'ai sympathisé dans le jeu avec un personnage, un autre, qui apparemment comme moi, ça faisait à peu près 2 jours qu'il était dans le jeu à tout casser, qui ne comprenait pas encore tout. Et finalement, en fait, j'ai passé 4 heures avec cette personne. C'était un Brésilien à l'autre bout du monde. Je ne sais même pas quel âge il a, ou il aurait pu avoir 12 ans, ou ça peut être quelqu'un qui a 50 ans, je ne sais pas. Et à la fin, on s'est retrouvés dans une sorte de décor, par hasard, où il y avait une piste de danse, où il y avait vaguement une ou deux personnes. Et puis, on a dansé un slow. C'était extrêmement étrange, parce qu'en fait, après, quand j'ai éteint le jeu, j'ai eu l'impression que c'est comme si j'avais partagé vraiment une expérience avec quelqu'un. Enfin, c'est-à-dire qu'on a passé 4 heures ensemble, et on se projette tellement dans l'avatar que finalement, on est presque vraiment dans la matrice, quoi. Enfin, on est dans le jeu.
Sur le tableau prévisionnel des sujets à diffuser que nous avons au bureau, nous avions appelé cette histoire les « no life », comme celle de ces personnes absorbées par leur avatar, englouties par leur ordinateur, rivées à un autre monde qui les empêche de vivre dans le nôtre. Renseignement pris dans le bureau de Xavier Delaporte, chroniqueur bien connu des matins de France Culture, qui s'y connaît en no life et qui surtout est entouré de vrais jeunes qui le renseignent quotidiennement. Renseignement pris donc, les no life, ce n'est pas tout à fait ça. À la différence de Karine, que nous rencontrons aujourd'hui et qui se perd dans ses avatars à ses moments perdus, le vrai no life est un ado ou un adolescent, plutôt un raté, un asocial, un boutonneux, qui, faute de mieux, passe son temps sur l'ordi. Le contraire, en quelque sorte, d'une personne populaire qui a des tas d'amis IRL et sur Facebook. Karine, elle, habite Paris, elle a largement dépassé l'adolescence puisqu'elle affiche superbement ses 42 ans. Quand elle travaille, elle monte des films pour la télévision, elle peint aussi. Ce qu'elle aime dans le jeu vidéo, ce n'est pas l'évasion, ce n'est pas de se projeter dans des univers irréels, mystérieux ou fantastiques. Elle cherche au contraire les similitudes avec sa propre vie et fantasme à l'idée qu'elle pourrait contrôler ses avatars plus facilement qu'elle ne contrôle son existence. Qu'il pourrait, par exemple, réussir là où elle a échoué. C'est vrai qu'elle n'est pas en pleine forme Karine, qu'elle est célibataire, qu'elle n'a pas encore de logement fixe, qu'elle vit à droite, à gauche et des amis, qu'elle n'a pas beaucoup de boulot non plus en ce moment et qu'elle déprime un peu. Mais pour elle, jouer, ce n'est pas un pis-aller, mais une source d'inspiration, dit-elle, une expérience intellectuelle, une découverte. Karine a beaucoup de distance, elle adore France Culture. À part les jeux vidéo, écoutez notre chaîne et sa principale activité, c'est donc forcément une chic fille, comme on l'entend jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre avec ce reportage d'Ilana Navarro réalisé par Benjamin Hu.
Il y a une particularité dans les Sims et dans beaucoup de ces jeux, c'est ces petites musiques un peu débiles, là. Quand on a beaucoup de soucis, c'est vachement bien parce que moi, c'est ce qui m'a fait du bien quand je suis revenue au jeu vers 32 ans, c'est qu'on est tout de suite dans le bonheur. Donc moi, je suis Karine, j'ai 42 ans. À la base, je suis monteuse et peintre. Je suis très joueuse depuis que je suis petite. J'ai toujours adoré les jeux. J'ai eu des consoles Atari quand elles sont sorties. J'avais 8 ans. Mais bon, je jouais plus du tout pendant des années. Et je suis revenue au jeu vers, je dirais vers 32 ans, parce que j'ai des amis universitaires qui, en fait, travaillaient sur le jeu. Ce qui peut paraître, enfin aujourd'hui ça paraît banal, mais à l'époque ça nous faisait un peu rire. Finalement c'était un bon prétexte pour rester enfermé chez soi, les volets tirés, à jouer des heures aux jeux vidéo, en plein été quand il fait 40 degrés. Oui, on est en train d'écrire notre thèse. Et je trouvais ça complètement régressif, je ne comprenais pas ce qu'ils avaient avec ça. Donc c'est vrai que c'est tout un univers, et grâce à eux, il y a un moment, il s'est trouvé qu'en fait, moi j'étais en panne créative totale dans ma vie. Une succession d'enchaînements qui ont fait que je me suis retrouvée à un point où je ne peignais plus, je n'allais plus beaucoup en montage, parce que j'avais monté une société, donc je faisais beaucoup plus de gestion qu'autre chose. Et donc je m'ennuyais, j'ai eu une panne créative, on va dire. Et là, à force de les fréquenter, ils avaient quand même plein de choses intéressantes à raconter sur les jeux. Ils ont commencé à m'en montrer. J'ai commencé à jouer aux Sims, ensuite j'ai commencé à jouer à GTA. Et j'étais prise très rapidement par les deux jeux, quoi. Donc voilà, je suis en train de lancer les Sims 3. Petite musique d'accueil.
On a une ville, là, avec toute la maison.
Et nous, il y a des maisons vides. Ça, c'est une maison vide. Ça, c'est une maison habitée. Donc moi, au début, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par créer une famille. Ça peut être une personne, ça peut être quatre personnes. Et ensuite, on va lui choisir une maison.
Un foyer. C'est marqué « Créer un foyer ».
Il y a deux modes. Il y a le mode vie. Là, on est dans le mode vie.
Ah, parce qu'il y a un bouton pour m'indiquer qu'on est en mode vie.
Voilà, mode vie. Et il y a le mode magasin. Attention, je lance le mode magasin. Alors voilà le superbe mode magasin, où voilà toutes les douches à acheter, que je peux aller poser partout. Là c'est une grosse douche, les miroirs, les superbes, les lits et tout. Donc voilà, petit meuble, donc tout ce qu'on voit dans la maison, là, c'est moi qui les ai installés. Même le tableau au mur, là je l'ai choisi, je passais du temps, parmi des millions, je peux en mettre un autre. Bon, celui-là est un peu grand, là. Voilà, je prends celui-là. C'est un ami qui m'a proposé ce jeu en me disant, tu vas voir, c'est une critique de la société de consommation. Et donc, effectivement, quand on rentre dans le jeu, alors la première fois qu'il me l'a montré, c'était très rudimentaire au début, c'était le premier jeu des Sims. On choisissait un personnage, donc il y avait le signe mâle, le signe femelle, donc moi j'ai choisi femelle. Et donc ensuite, on leur créait des enfants, enfin c'était un peu le modèle de la cellule familiale, et puis ensuite on se retrouvait dans une maison qui était vide, et il fallait la meubler, il fallait acheter des meubles, et là, problème, c'est que pour acheter les meubles, il faut payer les meubles, et pour payer les meubles, il faut aller au travail. Et là, en deux minutes, tu remets toute ta vie en question. Je passe des heures là-dessus, c'est les bases. Alors, attends. Quelque part, le module de création de personnages, évidemment, c'est un de mes trucs préférés dans les jeux. Parce que ça me rappelle quand je fais de la peinture, ou au départ, moi, je dessine. Donc, c'est-à-dire que là... Bon, je peux choisir évidemment la couleur des yeux, mais là où ça devient vraiment bluffant, c'est que je peux changer son nez, voilà, paramètres, traits de caractère, ajouter des traits. Donc voilà, c'est là où on rigole, c'est qu'en fait, il y a des tas de traits de caractère que tu choisis, tu as un nombre limité, ils sont rangés par catégorie, ça c'est les traits sociaux, physiques et tout. Alors par exemple le tout, j'ai allergique à la nature, ambitieuse, amicale, amoureuse de la nature. Ceci dit, je pense que comme il doit être, je sais pas s'il est possible de mettre les deux parce que ça doit être embêtant. si tu l'aimes, allergique et amoureuse de la nature, la pauvre. Après, quand on clique, elle nous donne un petit aperçu, en général. Hypersensible. Donc, hypersensible, t'es à peu près sûr qu'elle va se mettre à chialer tout le temps quand tu vas la voir dans le jeu. Ce qui peut être drôle, mais... Donc voilà, donc, c'est à partir de ces petits paramètres que tu choisis, tu en as un nombre limité, qu'ensuite ils se mettent à réagir dans le jeu et tu te dis, zut, j'ai dû me gourer quelque part, un petit peu comme Dieu quand il a créé les hommes. Effectivement, moi, personnellement, très rapidement, j'ai toujours derrière la tête comment je vais pouvoir déjouer le jeu, comme si je voulais être plus intelligent que la machine, comment je vais être plus fort que cette machine. C'est tout ce qui me gêne dans le formatage de la cellule familiale. Et donc, si je joue dans un jeu où on peut recréer des cellules familiales, si c'est pour les créer à l'identique des clichés séculaires où la femme fait à manger et le guerrier va à la chasse, c'est beaucoup plus délirant de pouvoir enfin, dans un jeu, faire cuisiner les garçons pendant que la fille s'éclate à les faire astronautes, par exemple. Souvent, je donne des métiers d'hommes aux femmes et des métiers de femmes aux hommes. Tous les hommes, ils sont cuisiniers, pères de famille, puisqu'il y a des enfants. Souvent, je vais faire bosser les filles, et puis un homme au foyer. Voilà, après, on ne va pas rentrer dans des trucs psychanalytiques, mais bon.
Oui, mais ça se rapproche un peu, parce qu'on se crée quelque part un idéal fantasmatique.
C'est ça, donc au départ, ceci dit, c'est évidemment... C'est comme avec la création. Quand on fait un tableau, on part sur quelque chose. On a une idée idéale dans notre cerveau de ce qu'on va faire. Moi, je peignais beaucoup des personnages dans des décors. Finalement, c'est assez proche. Alors oui, alors celle-ci, elle est étonnante. Donc c'est l'astronaute. Où est-ce qu'elle est ? Donc l'astronaute, on peut leur donner des goûts musicaux. Donc je lui ai donné comme goût musical la musique classique. Donc maintenant elle a pris son bain. Je vais la faire venir ici. Elle a pris son bain et apparemment c'est elle qui a dû allumer la stéréo parce que dès qu'on entend de la musique classique, c'est qu'elle a allumé la stéréo. Et alors ça c'est génial, on peut choisir la voix maintenant. Il y a une petite musique parce qu'on est dans la création de personnages. Elle a une voix un peu cassée. Voilà.
Mais elle parle quelle langue ?
Moi, j'appelle ça une sorte d'espéranto numérique. c'est une voix plutôt mûre, on va dire. Ça, c'est une voix d'hôtesse de l'air. Enfin bon, ah oui, et après, je peux régler la... On peut régler plus ou moins... leur degré d'autonomie.
Qu'est-ce qu'il y a comme choix ?
On peut le personnaliser. Ah ben voilà, auteur professionnel, briller dans tous les domaines, briseuse de cœur, compositrice de bandes originales de films. Je connais quelqu'un qui... Alors, il se trouve qu'il est psy, c'est peut-être pour ça. Lui, par exemple, il dit avec paternalisme, moi j'aime bien garder le contrôle sur eux, donc il leur met très très peu d'autonomie et il contrôle tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est limite si c'est pas lui qui décide quand ils vont aux toilettes, qui va. Ah, moi je pourrais jamais faire ça. J'ai passé le cap quelque part du jeu à la création, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment dans les Sims, je me suis mis à enregistrer des petites vidéos. Et je me suis dit, en fait, il y a un truc formidable à faire sur l'ennui. Alors, c'est là où ça rejoint le documentaire. Ça devient comme quand on filme un documentaire, d'avoir une attitude de documentariste dans le jeu des Sims. En fait, c'est un film français.
Le fait que de voir deux jeunes filles qui s'ennuient dans un appartement à New York, quelque part, il y a quelque chose qui te fascine dans cette expérience-là.
Pour moi, c'est métaphysique, ça. Cette fois, c'est l'ennui. Là, elle est dans sa chambre. En fait, on passe des heures à choisir la couleur du papier peint, l'emplacement du canapé. On peut passer des heures, hein, 6 heures, les personnages, à designer leur physique, à leur choisir des fringues, à leur choisir un caractère, un métier, etc. Et puis ensuite, pourquoi ? Pour les contempler en train de s'asseoir à une chaise et manger des frites. Moi, je projette dessus qu'ils sont dans un ennui mortel qui fait écho avec notre monde réel. J'entends un bruit de chiottes, là. Je vais faire une pause, là.
Mais est-ce qu'ils vont continuer à vivre pendant que...
Oui, ils continuent à vivre, ne t'inquiète pas. Enfin, ils sont quand je reprends le jeu, ils sont au même stade où je les ai laissés. Moi, souvent, je les laisse à côté. C'est un peu comme une famille. Ceci dit, quand on est célibataire, je vais dire quelque chose d'atroce, mais il y en a qui ont des chiens. Voilà, ils font leur vie. On leur donne à manger. Et après, quand on a plusieurs chats ou chiens, ils ont leur vie sociale et tout. Puis après, c'est intéressant de regarder comment ils interagissent. Et c'est ça qui est le plus amusant. Souvent, ce qui est assez drôle, ça... Quand ils travaillent trop, ils n'ont plus de vie sociale, alors ils commencent à déprimer. Alors, le jeu nous propose des choses très intéressantes pour remonter leur niveau de vie sociale. Alors, quand toi, tu es tout seul, tu traverses des longs moments tout seul, parce que souvent, moi, quand j'ai joué à ce jeu, c'est que moi-même, j'étais seule. Quelque part, ce jeu me renvoyait tout le temps, parce que quand j'ai plein de choses, je ne passe pas mon temps sur les Sims. Et voilà. Alors, quand tu n'as pas de vie sociale, tu peux alors lui faire téléphoner à une copine ou à sa mère. Ça marche bien aussi. La foutre devant l'ordinateur, elle peut chatter sur Facebook ou des trucs comme ça. Et là, ça va un petit peu mieux. Bon, il y a eu un moment là où je me suis remis aux Sims, là, il y a 3 ans. En fait, j'avais une aventure avec un homme, ce qu'on appelle une petite passion, avec un Tunisien. À Bordeaux, et c'était très intense, et puis ça m'a amusé, je nous ai fait dans les Sims. Donc j'ai passé une soirée, comme ça, pour m'amuser. Je l'ai créé, lui, puis je lui ai mis des fringues comme il s'habille et tout, et puis je me suis créé moi, et puis je nous ai mis dans une maison, j'ai pas mis d'enfant, je nous ai mis dans une maison... toute BCBG là, avec tout ce qu'il faut, là, la machine pour faire de la musculation, la belle cuisine, tout ça. Et puis je les ai fait tomber amoureux, etc. Et donc voilà. Et puis j'ai montré à cette amie avec qui je sortais, hein, je suis sortie, on était ensemble pendant 3 mois. Ça l'a fait flipper, mais grave, quoi. Mais alors, c'est bien parce que lui, il avait une spontanéité, il connaît rien aux ordinateurs, il est absolument pas geek, il n'utilise même pas Internet chez lui. Et là, je me suis rendu compte du choc que j'avais dû lui procurer parce que je lui ai montré un monde en 3D avec, genre, la petite maison dans la prairie, quoi, avec la petite maison, la petite balançoire, la petite vie de couple et tout, avec lui et moi dans une maison. Puis je lui disais, mais c'est un jeu, c'est juste un jeu.
Oui.
L'univers du jeu est 80%, c'est des mondes complètement délirants et les gens adorent les mondes délirants. World of Warcraft, ça se passe, on est des dragons, on est des personnages, des fées, des contes de fées, il y a des nains, il y a des... Et en fait, moi, j'ai jamais été à l'aise dans les mondes délirants, mais je pense que c'est parce que comme toute ma culture, à la base, c'est le cinéma...
C'est-à-dire le côté plus réaliste.
Exactement, totalement réaliste. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien les Sims. C'est des personnages, quelque part, bon, ben, je joue avec des personnages dans un monde réel. Les dragons, les machins, j'aurais pas pu... Une fois, j'avais construit, bon, c'est peut-être parce que je suis de Cannes, c'était énorme, j'avais construit, je m'étais attelée à une grosse tâche, j'avais construit en entier l'hôtel Carlton à Cannes, et j'avais enfermé un Sims tout seul dedans, et à un moment, j'ai pas compris, parce qu'il était tout seul là-dedans, avec un lit de camp, et au bout d'un moment, il y a un lapin imaginaire qui est arrivé, et je me suis dit, ça et tout, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et en fait, après, je suis allée voir sur Internet. En fait, il se trouve que les Sims, c'est la première fois que j'en faisais un tout seul, que je l'enfermais. Ils faisaient une dépression, donc quand ils font une dépression, ils se mettent à voir des personnages imaginaires quand ils sont tout seuls. Donc là, on a une espèce d'accident où on a justement de l'absurde. On a de l'absurde qui apparaît dans quelque chose qui est complètement normé. En fait, j'aime bien les jeux qui donnent une liberté d'action, enfin une liberté que j'ai peut-être pas dans la vie réelle. Il y a plein de choses à faire dans un jeu à part en dehors de jouer, en fait. C'est ça qui est drôle. On peut faire plein de choses dans les jeux virtuels, hein, je parle, comme Second Life ou les Sims ou GTA. GTA, ça se compose. On joue un gangster et il faut faire des missions. Et en général, les missions, c'est tuer des gens, faire des cambriolages, etc. Watch your head.
Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad.
C'est pas ce que je préfère dans le jeu, de faire les missions. Malheureusement, on est un peu obligé de faire les missions pour évoluer, pour débloquer des choses dans le jeu.
You dick!
Excuse you, maleducado!
Those are something full
of... Hey, m'emmerde pas, toi. Attends. Merde, là, je me suis fait écraser. Je suis pas en face, là. J'ai ma barre de santé qui diminue, qui clignote. Voilà. Je suis mort. Ok. Donc, j'ai fait quelques missions. Et au fur et à mesure que le jeu s'est débloqué, j'ai commencé à être vraiment prise. Parce que on a accès à des villes américaines. Et ensuite, on peut faire des kilomètres. Alors, moi, je gravissais tranquillement les missions pour avoir le temps. En fait, moi, dans ce jeu, je passe mon temps à me balader. GTA, j'étais vraiment surprise. Je pensais pas que j'allais vivre une expérience qui est proche de celle d'un voyage, en fait. Moi, c'est arrivé à un moment où j'étais coincée à Paris pendant les vacances. C'était le mois de juillet. Bon, j'avais ces deux amis là qui faisaient leur thèse, donc ils étaient totalement indisponibles parce qu'ils étaient enfermés chez eux à jouer. Et j'avais vraiment envie de voyager, mais j'avais pas les moyens à ce moment-là de voyager. Franchement, j'ai eu l'impression pendant un mois de m'évader en voyage aux États-Unis. J'ai passé des heures et des heures et des heures dans GTA à faire des kilomètres en voiture et en moto, avec la radio branchée. Alors j'avais mes radios préférées, la radio country, parce qu'il y a des paysages de désert et c'est complètement dépaysant. Donc quelque part, j'étais, comment dire, dans une expérience de voyage et une expérience esthétique, on va dire, absolument tripante dans GTA.
After 5 years on the East Coast, it's time to go home.
C'est très cinématographique comme ambiance. C'est quand même un autre trip. Là, je suis émue, tu vois, de le revoir. Et si tu veux, c'est même les bruits là. Alors après, je sais pas. Peut-être que s'il y avait un jeu vidéo qui se passe à Paris aujourd'hui, ça m'accrocherait pas trop, parce que c'est mon univers. Alors je vais encore peut-être te dire un truc sur la France, un petit peu. C'est depuis que je suis partie à l'étranger, au Canada, on me reproche de critiquer sans arrêt mon pays, mais de toute façon je fais comme tous les Français. Les Français passent leur temps à critiquer leur pays. Mais j'étais dans Second Life, comme j'y allais en décalé, je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas de Français. Je me suis dit, il doit bien y avoir des Français quelque part dans ce jeu. Pourquoi je tombe que sur des Brésiliens, des Américains, des Anglais Et donc, j'ai fait des recherches sur les forums. Effectivement, il y avait une île qui s'appelait Gaïa, où il y avait des Français. Donc, j'ai essayé de me brancher à une heure normale, en soirée, début de soirée, et je suis allée sur l'île des Français. Et je me suis approchée vers des personnages, et contrairement aux 3 jours que je venais de passer à discuter avec plein d'autres personnages et d'autres avatars, where are you from? I'm from, le Brésil, Angleterre, enfin, beaucoup d'Américains et tout. Je suis arrivée chez les Français et j'ai spontanément été vers des personnages pour faire comme j'avais fait pendant 3 jours. Voilà type 1 que je me retrouve à me faire snobber. Mais je me suis dit, c'est pas possible ça. J'ai essayé de parler à une deuxième personne et j'avais des questions du style, t'es qui toi, d'où tu viens, j'ai eu un contact assez négatif. Et là, je me suis dit, mais les Français, c'est pas une légende. Même dans les mondes virtuels, ils sont désagréables. Et alors encore mieux, après je me suis dit, bon, puisqu'ils sont pas sympathiques, je vais explorer l'île, ce qu'ils ont créé. Et je commence à explorer et je venais de passer 3 jours où j'étais allée dans des lieux où il y avait des lapins volants, des fêtes, des trucs. Et là, je vois une tente et tout, je rentre et puis je vois des guichets et tout, puis je m'approche, puis je vois ANPE. En fait, ils avaient recréé des trucs pour des entretiens d'embauche, comme Pôle emploi, le chômage, les acédiques, tout ça. Alors je me suis dit, bon, ça doit être de l'humour et tout, mais je me suis dit, putain, mais il y a bien que les Français, pour que dans un monde virtuel où on peut créer des tas de trucs déliants, ils te recréent la NPE. On peut pas rêver 2 minutes. Et en plus, ils sont désagréables quand on veut leur adresser la parole. Ça doit être parce qu'on est chômeur. Il fallait d'abord que j'aille trouver le travail dans la NPE, sûrement.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Karine et les No Life. Merci à Emmanuel Geoffroy qui nous a donné un coup de main pour le PAD de cette émission, comme on dit dans notre jargon. L'attachée de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon. Vos commentaires, vos suggestions, vos témoignages, des liens, des photos, des vidéos, tout ce que vous voulez nous dire, tout ce que vous voulez savoir, c'est sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Vous pouvez podcaster notre émission, je vous le rappelle, ou bien la réécouter autant de fois que vous le souhaitez.
C'était Les Mondes Virtuels de Karine, un documentaire d'Ilana Navarro pour Les Pieds sur Terre, diffusé pour la première fois le 24 mars 2014.